maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse.
Et maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un boitcast qui est légèrement différent cette fois-ci puisqu'il s'agit de l'enregistrement en live du débat ayant eu lieu lors du festival Enjeu le 27 et 28 novembre 2010 en Belgique, donc plus précisément à Cours-Saint-Étienne. Le thème du débat était « Est-il honteux de jouer ?», une question un petit peu décalée qui permettait en fait de commencer la discussion entre les acteurs ludiques du moment afin de faire un statut sur le jeu de société. Les intervenants de ce débat étaient Michel Van Langendonck, qui est président de l'Association des ludothèques de la communauté française de Belgique. On avait Thomas Provost, qui est co-responsable de la société d'édition Repos Productions, qui est connue donc pour Time's Up, Ghost Stories et dernièrement Seven Wonders. Gaëtan Bézieux, du Centre National du Jeu, anciennement dénommé Ludothèque de Boulogne-Billancourt, qui est responsable du concours international de créateurs de jeux de société. Christophe Bollinger, auteur de jeux, entre autres de Dungeon Twister et dernièrement Earth Reborn, qui est aussi responsable, co-responsable de la société d'édition Ludicali. Shadi Torbé, auteur de jeux, qui a sorti Onirim en 2010 et qui verra Equilibrium arriver en 2011. Et Marc Valkenars, qui est responsable du magasin spécialisé en jeux de société à Bruxelles, L'Entrejeu. Donc c'est un enregistrement live, le son n'est pas exceptionnel, mais je vous conseille quand même d'écouter le débat, puisque les échanges qui ont eu lieu pendant ce débat étaient quand même assez intéressants. Je vous souhaite une bonne écoute, et à très bientôt. Bien, on va démarrer. Donc, bienvenue pour le débat. Je rappelle que ceux qui veulent quitter leur parti et venir avec frénésie écouter le débat, c'est une excellente idée. Donc, le thème du débat ou le thème de la conférence, c'est une conférence assez ouverte, c'est-à-dire qu'on attend aussi à avoir une interaction avec vous, donc si vous avez des questions à poser, on a un micro ici. C'est de faire une espèce de constat du jeu de société à l'heure actuelle, avec des représentants du monde ludique, dans différentes catégories, donc je vais les passer, non pas par ordre de préférence, mais par ordre d'arrivée. donc, il y a Michel Van Langendonck qui est responsable de Ludo ASBL.
Bonjour.
Bonjour. Donc Michel, juste un mini CV, comme ça on sait ce que tu fais dans la vie.
Alors, je suis enseignant en fait, je donne la sociologie et politique de l'éducation à la Haute École de Bruxelles, mais ma casquette ici, c'est surtout ma casquette de ludothécaire, et je m'occupe de l'association des ludothèques de la communauté française de Belgique, et donc dans ce cadre-là, c'est clair qu'on essaye de promotionner le jeu de qualité pour tous.
Merci Michel. Donc on va passer à l'invité suivant, donc c'est Thomas Provost de Repos Productions.
Bonjour.
Voilà, bonjour Thomas. Donc,
moi je représente la société Repos Productions qu'on a fondée avec Cédric Caumont qui est quelque part là-bas dans le froid. Et voilà, et donc on fait Time's Up, etc., entre autres.
Voilà, merci. Voilà Gaëtan Bézieux, donc du Centre National du Jeu, donc de Boulogne-Billancourt. Donc Gaëtan est responsable du concours international de créateurs de Boulogne-Billancourt qui en est à sa 26e, 27e, 29e année.
29e,
il me semblait bien. Donc ça fait 29 ans que le concours existe. Et donc Gaëtan, en organisateur de ce concours, a un spectre ou une vue sur un spectre ludique qui est assez impressionnant et donc agit non pas en tant qu'éditeur, mais en tant vraiment que personne à distance du jeu, faisant une analyse du jeu et donc organisateur de concours.
Voilà. Bonjour.
Alors Christophe Bollinger, un petit CV, soyons fous.
Un petit CV, ouais. Je joue pas au foot.
Voilà,
je déteste le foot. Je suis auteur, avant j'étais auteur indépendant. Maintenant je suis toujours à moitié auteur indépendant et j'ai monté une société d'édition qui s'appelle Ludicali avec Jean-Charles Mouret qui n'est pas là. Et je suis l'auteur en particulier de Dungeon Twister, Une vie de chien, Différence et puis Earth Reborn à venir. Voilà.
Merci. Shadi Torbé.
Bonsoir.
Shadi Torbé, nouveau venu. Un mini CV de ton CV ludique, on va dire, dans le sens où voilà, c'est ta première expérience. Tu as sorti un jeu qui s'appelle Onirim chez Z-Man Games. Hein? Bonjour Shadi. Et Marcus. Bonjour Marcus.
Bonjour Divi.
Ça va bien?
Ça ne regarde pas.
Voilà, donc qu'est-ce que tu fais dans le monde ludique, toi?
Je fais l'épicier du coin.
Ah, ça c'est pas mal.
Voilà.
Mais spécialisé en jeux de société.
Oui, oui, okay. C'est ça. Oui.
Donc ça fait 12 ans que tu tiens un magasin qui s'appelle L'Entrejeu.
C'est ça.
Ok. Combien de jeux en stock, mesdames et messieurs?
Dans les références, plus de 7000.
7000 références dans un magasin spécialisé, ce qui n'est pas mal. Donc ça veut dire que...
Il faut dire que quand on fait Games Workshop et qu'on a déjà plus de 1000 références, rien qu'en Games Workshop, ça aide à annoncer des chiffres qui en jettent.
Voilà, exactement. Bien, donc le thème du débat, c'est « Est-il honteux de jouer ?» L'idée, c'est quoi? C'est de faire un statut sur le jeu de société à l'heure actuelle. Quand on parle du jeu de société, quand on sort de l'enceinte d'un festival comme celui-là, on a souvent des difficultés à démontrer que le jeu de société est quelque chose de culturel, de créatif et de non puéril. C'est-à-dire que on a souvent entendu parler de gens qui disent « Jouer à un jeu de société quand on est adulte, c'est qu'on n'a pas réglé quelque chose quand on était petit ou qu'on est mal dans sa peau. » Je pense que les gens qui sont ici ne vont pas dire qu'ils sont mal dans leur peau, et surtout ils ne le sont pas, parce qu'ils ont reconnu le fait que le jeu de société est un objet culturel. On peut peut-être demander à Michel quel est le statut du jeu de société à l'heure actuelle pour toi, à savoir qu'on essaye, comme on voit les personnes qui sont ici et dans les médias, on commence à voir apparaître une conscientisation sur le fait que le jeu n'est pas qu'une activité d'enfant.
Je pense que c'est un phénomène affleurant. Donc, il représente peut-être 2-3% de la population aujourd'hui. On est dans un phénomène qui touche plus particulièrement les 17-35-40 ans, je vais dire, qui redécouvrent le jeu de société de qualité par un retour aujourd'hui à travers le Rhin des jeux de société allemands et de leur qualité d'une manière générale. Et donc... dire que le jeu de société a un renouveau aujourd'hui dans le monde adulte, oui, c'est une réalité, mais c'est une réalité pour une toute petite couche de la population aujourd'hui. Et donc, à nous sans doute d'encourager ce mouvement et donc de gagner d'autres strates de la population. C'est globalement aussi un milieu socialement favorisé qui est investi dans l'éducation, des enfants et des adultes, de l'éducation permanente qui jouent. Donc il faut relativiser quand même ce renouveau et ce statut. Il y a du travail encore de ce point de vue là et je pense qu'on prêche des convaincus en fait ici. Le tout grand public, je vais dire, n'a pas encore accès à ce jeu de qualité aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce qui fait selon vous, et celui qui veut prendre la parole, évidemment, se manifeste. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le grand public ne continue à avoir cette idée qu'un jeu de société, c'est du Monopoly, c'est du Destin, c'est des jeux qui ont plus de 30 ans, 20 ans? Comment se fait-il que ça ne perce pas au point qu'on voudrait le faire évoluer?
Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Michel. C'est-à-dire que dans l'évolution du jeu de société actuel, il y a quelque chose de très important et qui n'est pas ici. C'est que si le milieu est aussi en effervescence et qu'il y a autant d'acteurs, c'est parce qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, est apparu le jeu informatique qui a vraiment permis au public adulte de jouer chez lui dans le noir, devant son ordinateur, tout seul, etc. Et puis est arrivé les jeux massivement online, sont arrivés le besoin de jouer avec d'autres gens, et ça a vraiment conforté, je pense que ça a cassé un tabou du plaisir adulte, simplement du plaisir ludique. Et donc je pense très clairement que même si en effet ça touche encore une petite frange, il y a énormément de jeux qui étaient, et l'offre qui était il y a 10 ans ou même 20 ans a vraiment évolué et qu'on trouve maintenant en boutique et même en grande surface, ça commence petit à petit à y avoir des jeux qui sont d'un circuit différent, on va dire le circuit underground qui est arrivé jusque là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des gros Mattel et des choses comme ça qui refilent chaque année les mêmes choses. Mais ça va doucement, petit à petit, mais il y a quand même des étapes clés qui sont arrivées, c'est-à-dire que maintenant, c'est le cas très nettement en Belgique, ça commence à être dans d'autres pays francophones, les journalistes viennent, commencent à s'interroger là-dessus, avoir de la presse en Belgique, c'est relativement facile, et c'était pas le cas il y a 10 ans. Donc maintenant, par de nombreuses initiatives, par des boutiques qui commencent à faire des soirées jeux, qui osent se montrer, les gens qui osent sortir dans des bars, etc. pour jouer, cette image du jeu interdit, du jeu vraiment destiné aux enfants, est vraiment en train de s'effriter. Il y a quelques gros succès qui permettent vraiment ça. Donc voilà, donc je pense que le constat, même si ce n'est pas encore, on n'est pas encore, les gens rejettent leur Monopoly pour acheter autre chose, il y a vraiment toutes les armes pour que la pirouette se fasse et que les gens découvrent vraiment des produits, non pas de qualité parce que ça dénigre, mais en tout cas des produits modernes qui ne datent pas d'il y a 50 ans. C'est déjà le cas dans la bande dessinée, c'est déjà dans le cinéma, les gens consomment, mais pas les produits d'il y a 50 ans. Il y a encore des gens qui achètent des films en noir et blanc, etc. Mais globalement, les gens achètent plutôt les films de l'année passée. Dans le jeu de société, c'est pas encore le cas. Les gens achètent encore du Scrabble, encore du Monopoly, essentiellement. Mais des choses sont en place, des gens se rendent compte. Si on prend quelques indicateurs externes, et pour ne pas le citer Jungle Speed, il est apparu dans deux chansons à ma connaissance, dans des bandes dessinées, certains personnages commencent à citer non pas le Monopoly, mais très clairement en disant « Oh, t'as joué le truc trop bien, ça s'appelle Jungle Machin ». Voilà, donc ça, c'est vraiment en train d'entrer dans l'inconscient collectif, dans la culture populaire. Voilà.
Ok, mais donc, justement, peut-être que Guetta, on peut répondre. Les questions se suivent, mais c'était pas prévu comme ça. C'est que, justement, par rapport à la percée du jeu de société actuel, qu'est-ce que recherche le public par rapport au jeu de société de maintenant? Quand on dit qu'il perd, ça veut dire qu'il redécouvre quelque chose. Est-ce qu'on a une explication de ce qu'il redécouvre quand on joue au jeu de société?
Déjà, nous, le constat qu'on a vu plusieurs fois au Centre National du Jeu, à chaque fois qu'on a organisé des expositions, c'est que le grand public n'est pas au courant de la date de création de nombreux hits, en fait. Donc, notamment, on va demander le Monopoly ou le Scrabble, les dates de création, ou même des jeux, le Trivial Pursuit. Et pas mal de personnes ne situent pas du tout, ont l'impression que ça a été créé il y a 10 ans. Et quand on annonce que le Monopoly a déjà plus de 70 ans, les gens font les grands yeux. Donc, aussi montrer que, enfin, resituer les jeux dans leur époque et montrer qu'aujourd'hui, il y a justement une nouvelle vague de jeux. Donc après, qu'est-ce qui fait qu'ils redécouvrent une nouvelle facette? Moi, enfin, en tout cas, alors après, je sais pas si c'est pareil en Belgique, mais déjà, il y a beaucoup plus de jeux implantés en boutique non spécialisés en Belgique qu'en France. En France seulement, dans des grandes enseignes comme Fnac, Éveillé Jeux et des choses comme ça, on commence à trouver un petit peu du jeu contemporain, mais c'est vraiment récent et voilà, c'est à peine qu'on le trouve. Mais autrement, je dirais que le party game, ça a beaucoup aidé. Voilà, dans la vague justement du Juggle Speed, du Time's Up, Loup-Garou, où là vraiment le grand public commence à avoir ses références. Il y a encore une autre étape à franchir avant que Loup-Garou, les Aventuriers du Rail ou les Colons de Catane soient à côté de Monopoly. En grande surface, là, ça passe aussi par l'animation, par la reconnaissance du public, mais il faudrait peut-être aussi que l'État s'y mette après, à reconnaître peut-être en tant que culture aussi le jeu et puis à le cantonner. En France, en tout cas, c'est toujours le ministère de la Jeunesse et des Sports qui gère tout ça. Donc après,
je crois qu'en Belgique, ça n'est pas géré, le jeu de société.
Il y a une reconnaissance du secteur ludothèque, mais dans le domaine de la culture, ce qui est intéressant, étonnant, mais l'officialisation même se fait uniquement à Bruxelles jusqu'ici. Donc à l'échelle même de la communauté française ou de la communauté flamande, il n'y a pas de reconnaissance officielle. Mais dans les textes de loi, sur le champ bibliothèque-médiathèque, il y a les ludothèques à côté. Donc via cette reconnaissance-là, même si c'est un chapeau plus ou moins vide au niveau du métier aujourd'hui, donc il n'y a pas de statut véritablement, le jeu en lui-même a sa petite niche d'entrée potentielle dans les législations. Mais on est à cheval entre plusieurs ministères, l'enfance évidemment, les loisirs et les sports, et par ailleurs le réseau culturel. Mais comme la culture a peu de sous, d'une manière générale, et parents pauvres, stratégiquement, il est parfois plus intéressant de jouer le jeu dans la dynamique d'accrochage social, ce qu'il est aussi, ou dans la dynamique éducative, ce qu'il est également, ou alors dans la construction de l'enfant, ce qu'il est également encore. Donc le jeu a plein de facettes, et donc il y a beaucoup de portes d'entrée, évidemment. Donc à la limite, tout ministre est un ministre du jeu.
Alors Thomas, on parlait justement sur le fait que le jeu de société était arrivé avec le jeu vidéo. Je voulais juste passer chez Christophe, désolé. C'est que justement, Christophe, on a vu l'évolution de Dungeon Twister, donc qui était en tournoi là-bas. Il y a eu un cycle qui s'est fait avec toi, justement. C'est que Dungeon Twister est un jeu de plateau au départ, et maintenant il y a une version sur Xbox, si je ne me trompe. Donc quel constat, toi, est-ce que tu fais sur l'évolution du jeu de cette manière-là? Parce qu'on parle du jeu vidéo qui permet justement de dépuériliser le jeu de société, et le jeu de société finalement finit par avoir sa version, dans ton cas, sous forme de jeu vidéo. Quelle a été la démarche qui t'a permis de dire oui, ça va marcher en tant que jeu vidéo aussi?
Moi j'ai pas eu de démarche particulière. On va dire que très très rapidement, après la création du jeu, dans les premiers mois, quand on a vu qu'on arrivait, déjà qu'on était obligé de jouer au timer, donc avec une horloge, parce que sinon on partait en analysis, paralysis, comme aux échecs un peu, on se mettait à trop réfléchir. On s'est vu que le jeu était très tournoyable, entre guillemets. La preuve, c'est qu'il y a toujours des tournois maintenant qui s'organisent d'eux-mêmes. Donc le coup du labyrinthe, les salles qui tournent, tout ça, moi j'arrivais bien à le visualiser en jeu vidéo en 3D. Et ça brûlait les yeux de se dire ce jeu il est fait pour être un jeu vidéo. Donc je dois avouer que moi personnellement je n'ai absolument rien fait, ça me pendait au nez. Tout ce que j'ai fait, c'est rédiger sous Word en 14 pages ma vision du jeu vidéo. À tel point que ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à Lille, donc à un championnat de France ou d'Europe d'été, il y a les gens de Lille, donc justement de l'Hydravision, qui sont la société qui développe le jeu, qui sont venus me voir. Et j'avais dans mon sac le dossier complet de voilà comment je vois Dungeon Twister en jeu vidéo. Donc c'était quelque chose pour ce jeu-là, ça s'y prêtait vraiment. Et j'avoue que je ne cherchais pas, je ne courais pas après. Je me disais ça va mettre un an, deux ans, trois ans, on va savoir, ça arrivera. Là où c'est intéressant de voir le processus qui se passe au niveau du jeu en lui-même, sans parler d'été ou quoi, c'est que ce qui se passe, c'est que les joueurs sont devenus tellement passionnés du jeu de société qu'ils avaient du mal à trouver des adversaires maintenant à leur taille. Et qu'il fallait, pour qu'ils arrivent à trouver un os à ronger qui les amuse, entre guillemets, en parlant de l'adversaire qu'ils ont en face, qu'ils fassent des kilomètres pour aller à un tournoi ou quoi. Et que ça ne leur donnait pas leur dose journalière qu'il leur fallait pour jouer à ça. Donc la grande partie des joueurs qui viennent demander « Mais alors, Dungeon Twister en jeu vidéo, c'est quand ?» C'est que ces gens-là, ils veulent maintenant pouvoir se connecter sur leur console à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, jouer contre un Japonais, un Canadien, un Taïwanais, un Français, un Belge, et pouvoir avoir leur classement constant et avoir se confronter aux joueurs qui sont à leur niveau, où que ce soit dans le monde. Donc là, l'avantage quand même qu'amène le jeu vidéo, c'est qu'il va permettre à des gens de se rencontrer virtuellement, de jouer les uns contre les autres à n'importe quelle heure de la nuit et n'importe où dans le monde. Là, c'est un réel avantage que ça apporte. Maintenant, ils sont tous conscients aussi qu'ils n'ont pas envie que ça leur grignote leur vrai tournoi où là, ils ont la personne en face qu'ils peuvent palper, taquiner, etc. Donc l'un ne tuera pas l'autre. Voilà de mon côté comment ça s'est passé. Maintenant, il y a peut-être pour d'autres jeux, il faut pousser le bouchon pour arriver à ça. Et pour aller plus loin, le même mois, c'est pas seulement Hydravision qui est venu me voir, c'est trois sociétés différentes, une américaine et deux françaises, dans le même mois, qui sont décidées à adapter Dungeon Twister. Donc, ils sont conscients. Et vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo, quand ils se retrouvent le soir dans leurs locaux et tout, ils jouent pas à des jeux vidéo. Ils jouent à Monjoie, ils jouent à des jeux de plateau. Et ils ont une grosse ludothèque, enfin grosse, plus ou moins grosse ludothèque de jeux de société, et ils vont puiser les idées là-dedans.
Ça veut dire qu'on est dans une logique de cliché aussi par rapport aux jeux vidéo. Donc autant pour le jeu de société, on dit jouer c'est pour les enfants, le jeu vidéo c'est quelque chose d'asocial. En fait, ça devient de plus en plus faux.
Oui.
Oui.
Alors, il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir, ça a pu avoir avec... Mais quand il parlait tout à l'heure de pourquoi on entend toujours parler du Monopoly, tout ça, et qu'on n'entend pas les nouveaux jeux, je pense qu'un média dont on n'a pas du tout parlé, enfin les trois personnes avant n'ont pas parlé, c'est la télé malheureusement. Et la télé, c'est la machine à zombiliser la population entière. Je suis désolé du terme zombiliser, mais le jour où Hasbro décidera de faire une pub pour un jeu autre qu'un Bonne Paye, qu'un Monopoly ou quelque chose, ou le jour, alors je sais qu'Asmodé a déjà fait quelques pubs parfois, mais c'est quand même très éparse, ça leur coûte très cher, et ça se comprend, ou le jour où Asmodé ou Ropoprod ou Ludicali, ou nous, on aura les moyens de se payer une pub télé, à ce moment-là, les gens ils diront ah oui, je l'ai vu à la télé ce jeu. Parce que malheureusement, la plupart, ils jurent que par la télé, quoi. Et tant qu'on verra que du Monopoly, la Bonne Paye, Scrabble et tout ça à la télé, les gens ils connaîtront que ça. Et on peut passer par les médias radio, les animes, tout ça, on fait du boulot, on avance pas à pas comme ils le disent, Mais le grand pas à faire, c'est qu'un beau jour, il y a une pub à la télé, quoi. Et ça, on les a pas pour l'instant, parce qu'on n'a pas les moyens.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
C'est pour ça qu'on t'a invité.
La première chose, c'est que donc les gens consomment par rapport à la télé, c'est pas la question, mais les jeux qui sont achetés en masse dans les supermarchés, etc., sont des jeux dont les gens connaissent les règles. Ce qu'ils veulent, c'est racheter un Monopoly parce qu'ils en ont un à la maison de campagne et que l'on faut un à la maison à Bruxelles et que quand ils vont partir en avion et que voilà, il faudra en acheter un. Le plus gros problème des gens, c'est la capacité et l'abandon total de la lecture des règles. Les gens ne veulent pas lire des règles, quoi qu'il arrive. Et je pense que la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est qu'avec des manifestations comme ça, les gens arrivent à découvrir des jeux, qu'on leur explique des règles, et le succès des grands jeux, parce que Jungle Speed est à la télé maintenant, enfin il y a des pubs télé, etc., Jungle Speed est arrivé sur des consoles de jeux, etc., sur la Wii, mais il est arrivé non pas dans les grandes surfaces parce qu'il y a eu de la pub télé, il est arrivé justement à l'envers, les grandes surfaces sont venues le chercher parce que les gens, vraiment les acheteurs, le voulaient et qu'il était prêt à faire le saut. Et je pense que toutes les tentatives que Hasbro et Mattel ont voulu faire, et par exemple l'arrêt des Rosquets, pour ceux qui connaissent, qui ont un vraiment très bon jeu de figurines, mais qui demande quand même un certain apprentissage, qui a eu pub télé, etc., c'est voué à l'échec parce que ces gens veulent directement avoir une rentabilité immédiate, demandent à un public qui n'est pas prêt à aller étudier les règles, retrouver des choses, chercher sur Internet, se documenter, apprendre vraiment un univers de jeu, ce qu'ils veulent. Les gens en grande surface, c'est vraiment acheter un jeu, ouvrir la boîte et déjà savoir jouer, ce qui est une démarche qui n'existe pas, sauf si vous connaissez déjà le jeu. Et donc toutes les initiatives comme celle-ci, toutes les initiatives que les boutiques font, toutes les initiatives que les clubs, etc., font en expliquant des jeux, en montrant aux jeux, aux gens, tu peux découvrir les règles, je vais te les expliquer, tu vas voir, c'est pas si compliqué, vont faire qu'à terme, des jeux vont monter. Par rapport, je pense que l'arrivée des sociétés informatiques qui commencent à regarder le monde du jeu de société, c'est lié à deux choses. La première, c'est que ces sociétés sont pas du tout exsangues, mais sont en panne de création. Si vous regardez le portefeuille des jeux informatiques maintenant, l'innovation, elle est très très rare. Les budgets sont directement des budgets en millions de dollars, etc. Et les vraies idées, on ne les retrouve pas dans le milieu informatique, en fait. On les retrouve ici, sur le terrain. Il y a vraiment des façons de prendre du plaisir sur des jeux qui sont différentes, qui sont liés, par exemple, si on prend les massivement online, le plaisir n'est plus venu le plaisir n'est pas de confronter l'intelligence artificielle, mais de vraiment rencontrer d'autres joueurs, ce qui est la base essentielle du jeu de société. Et donc, il y a vraiment un retour et un regard qui est porté ici, puisque c'est très clairement un milieu qui est en pleine effervescence, en plein mouvement, avec énormément d'acteurs qui sont à la base même du plaisir de jouer, c'est-à-dire de rencontrer les autres, etc. Donc, à mon avis, ça, c'est vraiment essentiel. Et pour encore un peu aller dans le sens, préciser ce que disait Michel, il n'y a pas que maintenant le jeu informatique qui se tourne vers le jeu de société, même les éditeurs de bandes dessinées commencent à le faire. C'est-à-dire que énormément d'éditeurs de jeux de société ont été contactés par des bandes dessinées, par des éditeurs de bandes dessinées qui disent « Nous, on s'essouffle, on fait tout le temps les mêmes BD. » Bon, ils ne vont pas l'oser le dire, mais très clairement, ils ont leur blockbuster, mais ils n'arrivent plus à facilement placer des produits et ils se disent maintenant le jeu de société est un média possible pour valoriser une licence, etc. Tous ces facteurs économiques-là sont, à mon avis, des preuves que c'est en marche, qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a vraiment des très bonnes idées, que le milieu, comme il est hyper actif et intéresse plein de gens.
Oui, alors effectivement, donc il y a quelque chose qui était en marche, puisque sur les années qui viennent de passer, on a vu pratiquement doubler le nombre de jeux présentés au Salon International de Essen, puisque cette année on est arrivé... Oui, j'ai une petite question ici, pardon.
Alors, est-ce que c'est pas aussi souvent les thèmes et les illustrations qui effrayent le grand public des jeux? Parce que c'est souvent le fantasy ou des choses qui a l'air trop niche, hein, comme on appelle, et que pour le grand public, ils disent « Oh non, ça c'est pas pour moi, je commence pas ». Alors que Monopoly et Scrabble, c'est neutral, alors le grand public se dit « Ah, là je suis pris au sérieux, je vais acheter ce jeu, mais Dungeon Twister, c'est trop fantasy, j'achète pas ». Peut-être que c'est un bon jeu, que c'est une bonne mécanique, mais c'est pas pour moi, c'est plutôt pour les gens qui se déguisent et tout. Et que c'est peut-être ça aussi un paramètre qui joue dans le truc.
Après là c'est pareil, c'est un avis, hein, mais je pense pas, parce que quand on regarde aussi les aventuriers du rail, qui est un thème beaucoup plus ouvert sur le grand public, là, la conquête des États-Unis ou le développement de la voie ferrée Et bon, on le trouve plus. Alors après, c'est pareil, je ne sais pas à quel point c'est développé en Belgique et dans les pays plus nordiques, mais en France, on est vraiment encore loin de le trouver en grande surface. Pourtant, c'est des règles très simples. Le matériel est attractif. Là, je prends celui-là parce que ça a été aussi avec, enfin, ces dernières années, Colomb de Catane même, hein, qui en Allemagne, et on le trouve partout. En France, on est encore loin. Personne ne connaît. Enfin, quand on rentre dans le grand public, pourtant, c'est pareil. Coloniser une nouvelle terre, c'est des thématiques assez simples, pas du tout guerrières. Donc là, on n'est plus du tout dans ces notions-là qui pourraient choquer le grand public. Mais après... Je pense aussi, comme Thomas, que c'est un réel travail de terrain, tout comme à son époque, à Ballonne, eh ben, la société, ils ont fait 10 ans de terrain et ils ont été perdants pendant 3 ans à faire des animations sur tous les salons. Ils ont perdu de l'argent pendant 3 ans, et vraiment, hein, à investir de l'argent. Et maintenant, c'est racheté par Hasbro et ça a le succès qu'on connaît, tout comme Jungle Speed, où ils ont persévéré à faire dans les campus des animations, dans les magasins. Et donc... Tout comme, enfin voilà, pour revenir là-dessus, si on fait un an d'animation de terrain, qu'on n'est pas persévérant et qu'on cherche la rentabilité tout de suite, bon, bah, je pense que c'est dans n'importe quel domaine en fait. Hein. Même si on lance un nouveau paquet de gâteaux et qu'on lui laisse 6 mois, bah, les gens sont habitués à acheter leur savane et vont pas acheter ce nouveau paquet de gâteaux, mais si on laisse un an, ils vont peut-être acheter. Bon, après, là, c'est peut-être une grande image, mais voilà, je pense que le jeu de société, c'est comme ça. Si on lui laisse le temps. Il y a aussi, du coup, ça rejoint un peu l'abondance de produits. Quand les éditeurs, du coup, sortent 8 jeux par an, il y a des éditeurs qui font ça, hein, même en Allemagne, à sortir 6-8 jeux par an. Du coup, on est submergé par la masse. On va découvrir un jeu, puis en redécouvrir un autre tout de suite après. On a déjà oublié le précédent, et ça rejoint un petit peu une des tables rondes de ce midi. Le buzz est lancé, le jeu n'est pas encore sorti en boutique, que déjà les joueurs l'ont oublié, en fait. Donc, il y a aussi peut-être que le milieu de geek et de joueurs, on est trop demandeurs de nouveautés aussi, et qu'on devrait peut-être plus laisser le temps à tout le monde de respirer, aussi bien la création que...
Non, parce que moi, en fait, je ne viens pas du monde du jeu. Donc ça, c'est mon avis. C'est seulement il y a un an que je suis rentré par hasard dedans. Et souvent, Ticket to Ride, hein, les aventuriers de rail, là aussi, c'est un très chouette jeu que j'aime bien. Mais là aussi, les dessins sont forts, toujours... c'est fort dessin et tout, alors que Monopoly, c'est très basique et tout. Et donc, je suis en fait le débat qu'on a eu tout à l'heure, que parfois, on met trop des efforts dans le graphisme, alors que si on fait un peu plus très simple, pas trop d'illustrations, et juste prendre comme Avalon ou quoi, vraiment très... qu'il y aurait plus de succès, quoi. Et,
je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a une diversité encore plus importante maintenant dans les types de jeux de société. Donc tu dis Monopoly, bon, c'est même pas un type de jeu de société, c'est un jeu qui est hors classe, on va dire. Abaddon, c'est un jeu abstrait. Maintenant, il y a eu des séries de jeux de type coopératif. Il y a La Majorité qui est apparue avec El Grande. Il y a plein de mécanismes différents. Et je pense que c'est difficile de faire rentrer chacun de ces mécanismes-là dans une image qui fait que ça intéressera tout le monde. Tu es obligé de faire du thème. Ouais.
Oui, je peux embrayer là-dessus. C'est vrai que c'est un élément très important, faire comprendre, et c'est une question d'éducation avant tout, que toutes, on a un goût potentiel pour le jeu, mais pas tous les jeux. Et donc, avoir une variété qui est offerte permet alors pour chacun à trouver son style de jeu. Le fait qu'on thématise un petit peu plus les jeux, que les illustrateurs travaillent maintenant, que ce soit un travail d'équipe, auteur, illustrateur, éditeur, donc là c'est un phénomène nouveau, donc on parlait sans doute ce midi, certainement, en tout cas pour les illustrateurs, c'est certainement un plus pour rendre les choses plus concrètes, se plonger dans un univers, en tout cas pour le monde latin et anglo-saxon, c'est très important face à des choses plus abstraites qu'on trouve parfois en Allemagne, par exemple. Donc dans notre sensibilité, on doit trouver ce genre de choses. Maintenant, individuellement, chacun ne va pas être sensible, évidemment, à toutes les thématiques qui sont proposées. Donc, dès qu'un jeu est thématisé, s'il est immersif et donc si les mécaniques sont en rapport avec la thématique, je pense qu'on a là un jeu intéressant. Maintenant, si c'est simplement pour faire vendre qu'il y a un habillage, là, c'est pour cibler un type de public, et là, vous avez sans doute raison. Là, on cible, mais là, c'est plutôt l'éditeur qui va penser à tel type de public plutôt qu'à tel autre. ben, il atteindra sa niche s'il a bien travaillé, en quelque sorte. Mais du point de vue du public, il faut avant tout faire passer le message du test, du goût, de l'envie, et puis chacun va rencontrer les jeux qui lui conviennent. Et c'est la diversité qui est présente dans le milieu du jeu aujourd'hui, qui n'était pas il y a 15 ans, qui fait qu'on a plus de chances vraiment de toucher un plus large public. C'est une éducation qui commence dès l'enfance et qui se prolonge alors dans l'âge adulte.
Non, c'était juste pour rentrer dans le débat, est-il honteux de jouer? Et c'est souvent ça aussi, les gens qui disent, ah oui, qui trouvent que c'est honteux de jouer parce qu'ils se croient, ah oui, je suis dans un monde de bande dessinée, etc. Donc c'est honteux de jouer, donc c'est un peu pour rester dans le débat.
Voilà. Ok, l'autre question?
Oui, donc je suis enseignante et j'ai souvent du mal, enfin, quand j'essaie d'expérimenter quelque chose. Ici, par exemple, on a vu le policier en classe avec des deuxièmes secondaires, donc des cinquièmes environ pour ceux qui habitent en France. Et donc, j'ai commencé ma leçon en jouant avec mes élèves à un jeu qui s'appelle « À l'heure du crime, où étiez-vous ?». Et donc, ils ont préparé un interrogatoire, on a travaillé l'interrogatoire à l'oral, et après, ils sont passés à la rédaction. J'ai raconté ça à mes collègues en disant « Ça a super bien marché, ils sont partis dans la rédaction, c'était tout de suite. » Et mes collègues m'ont en gros fait sentir « T'as perdu une heure de cours, quoi ». Et ça, c'est très frustrant de se dire j'ai réussi à faire marcher les élèves, mais pour les collègues, c'est t'as perdu une heure de cours, c'est honteux, tu perds du temps avec tes élèves à jouer avec eux alors que t'as de la matière à voir, quoi. Et ça, c'est un peu frustrant.
Là, on rentre dans le champ du jeu avec dans ses dimensions pédagogiques et éducatives. C'est un champ un peu différent, mais cette dimension-là d'apprentissage par le jeu est certainement encore moins décomplexé aujourd'hui que le jeu adulte. Donc, effectivement, là, il y a encore beaucoup de travail. Je travaille dans un institut pédagogique. J'ai du mal à faire avancer l'idée qu'une ludothèque, dans le cadre d'un institut pédagogique, donc de formation des enseignants, avait son rôle. Bon, elle existe maintenant, cette ludothèque, effectivement, mais je peux dire que c'est un travail quotidien. Donc, bon, c'est avec des initiatives comme la vôtre que progressivement les choses se mettent en place, mais il faut d'abord être convaincu en tant qu'enseignant, donc en tant qu'individu, du plaisir du jeu avant même son utilité pédagogique, parce que si on n'est pas passionné, on n'est pas passionnant. Et donc si vos collègues n'ont pas cette passion en eux et n'ont pas découvert vraiment la saveur du jeu, même quand bien même ils seraient convaincus de l'utilité pédagogique, ils ne le feraient quand même pas dans leur classe. Donc c'est progressivement que ça viendra, mais il faut laisser le temps au temps. D'abord, si dans la saveur même du plaisir de jouer sans intention quelconque, un public plus large pouvait être touché, dans la qualité même du jeu de société, bien, ça aiderait déjà beaucoup. Et donc là, on est tous en train de travailler dans cette direction-là. Au plus il y a d'enseignants qui l'utilisent, au mieux c'est. Donc, c'est pas très étonnant que ces réactions-là existent. Il faut peut-être les plonger dans un jeu qui leur convienne, et puis progressivement, elles vont découvrir la richesse intrinsèque du jeu. Maintenant, peut-être juste une dernière petite chose par rapport à ça. Le changement en matière d'éducation pour l'enseignement aujourd'hui est très important. Donc, on nous demande d'enseigner. Mais on nous demande aussi d'éduquer, parce que les parents ont moins le temps de le faire. Donc officiellement, l'enseignement doit prendre une charge éducative également. Dans ce cadre-là, précisément, le jeu a une place encore beaucoup plus importante que dans la niche pédagogique. Et donc, certainement, utiliser le jeu en classe, le jeu à règles, partager des règles en commun, savoir faire du coopératif comme du compétitif, c'est tout à fait vendable face à un inspecteur aujourd'hui, alors que ce n'était pas il y a 15 ans. Donc là aussi, il y a tout un champ qu'on peut exploiter. Mais on n'est plus tout à fait dans le débat.
Gaëtan ? Oui, pour rebondir sur la notion du coup de jeu et pédagogie, au centre OCNJ, pour le coup, on fait régulièrement des formations pour des instituteurs. Et on a été confronté plusieurs fois à des questions, en fait, notamment sur la notion de transfert de connaissances. Et en fait, qui est une des choses les plus dures, puisqu'un enfant pourra, dans un jeu, donc on va prendre un, je sais pas, enfin les plus basiques, même Aventurier du Rail, donc un plus petit qui découvrira peut-être les chiffres ou même les multiplications pour le scoring ou des choses comme ça. Juste après, si on cherche à faire une évaluation en le questionnant sur ses tables de multiplication, ce n'est pas pour autant qu'il va réussir, enfin qu'il les connaîtra. Il pourra réussir à effectuer ses calculs dans le jeu, mais durant un temps scolaire plus formel, ne réussira pas du tout. Donc en fait, il y a aussi cette vision, enfin en tout cas nous, quand on fait nos formations, les profs se focalisent vraiment sur cette notion d'évaluation du transfert des connaissances. Et nous, on leur dit, voilà, vraiment ce que vient de dire Michel, l'aspect éducatif le plus important, c'est la notion de respect de règles, respect de l'autre, respect du temps de jeu, et tout ce que ça engendre, en fait. Mais déjà, l'écoute, en fait, là, on rejoint plus l'éducation, et le respect de l'autre. Après, sur les connaissances, c'est aussi pour ça, nous, on le voit dans les formations qu'on organise, les instituteurs sont souvent réticents, mais on leur dit bien qu'après, il faut bien que ce soit deux temps de jeu, enfin deux temps séparés, qu'il y ait un temps de jeu, un temps d'apprentissage, et que ces temps de jeu ne doivent pas obligatoirement subir une évaluation. Mais ça, c'est très dur dans la période, dans le temps scolaire, mais il faudrait que ce soit inclus parce que ça apporte en même temps d'autres choses très riches. Une ouverture sur des thématiques qu'on n'aborde pas toujours. Là, même là, l'heure du crime, on rentre dans une partie où ils se mettent en jeu, ils prennent le rôle qui n'est pas toujours évident, parce que je suppose que tout au long de votre programme scolaire, c'est des choses qui ne sont pas habituées, ils ne sont pas amenés à faire des choses comme ça. Et du coup, par des temps de jeu comme ça, vous pouvez amener ça. Donc après, à mon avis, en étant persévérante et puis... quitte à faire une formation auprès des autres instituteurs. Après, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant.
Je suis désolé, je vais prendre la parole.
Si tu es là pour ça.
Je vais essayer de le faire passer par là-bas après, parce que ces pauvres messieurs n'ont pas eu de temps de parole. Malheureusement, vous avez touché un point qui me touche mais vraiment très très profondément, que j'ai laissé tomber il y a peut-être 5-6 ans, quand j'ai vu qu'un des auteurs les plus prolifiques français, que je nommerai pas et qui est prof, était totalement contre l'idée. Et là, je me suis dit, mince, si un mec qui a une collection énorme de jeux chez lui, qui crée des jeux, il est vraiment contre ça, j'ai baissé les bras. Ma mère est enseignante, et vers l'âge de peut-être 25 ans ou 30 ans, j'ai fait une analyse de ce que je pouvais mettre sur mon CV. Et j'ai regardé sur ce que je pouvais mettre sur mon CV, qu'est-ce que je devais au jeu et qu'est-ce que je devais à l'enseignement. 80% de ce que je mets dans mon CV, je ne le dois pas à l'école, je le dois au jeu. Outre ce qu'ils disent, les tables de multiplication et tout ça, je suis d'accord. Ce que vous apprenez à des enfants quand ils jouent et quand après ils sont autonomes, c'est d'abord lecture de règles, c'est de la lecture. Ensuite, analyse et interprétation des règles. Ça, c'est encore autre chose. Comme un texte de loi, vous en faites presque des petits juristes. Troisième chose, quand ils commencent à expliquer le jeu, parce que si le gamin il est motivé et qu'il veut jouer, il va expliquer à 4 ou 5 gugus en face. Ces 4 ou 5 gugus, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils parlent du match de foot de la veille, de King Kong ou de je ne sais quoi. Il va falloir les tenir en respect et être pédagogue. Ils apprennent la pédagogie. Si pour peu le jeu qu'il a, il l'a qu'en anglais et tout, ce qui fut mon cas quand j'étais gosse avec Donjons et Dragons. J'ai pas appris l'anglais avec l'école, je l'ai appris comme beaucoup d'entre nous avec les jeux de rôle. J'ai passé mon bac à l'oral sur la préface de Donjons et Dragons. Je dois remercier Donjons et Dragons pour avoir eu un 17 sur 20 et avoir eu mon bac grâce au jeu. Et ça va loin comme ça. Il y a la pédagogie, il y a le respect des règles, il y a le fait de vouloir gagner, mais surtout et par-dessus tout, il y a que les enfants, il y a deux mots opposés dans leur vie de tous les jours. Travailler et jouer. Et quand ils arrivent à la maison et qu'on demande à maman, je peux aller jouer? Non, d'abord tu travailles, tu finis tes devoirs. Mais si ces devoirs, il les a fait en jouant, et si surtout, comme ils le disent, on leur dit pas que c'est évalué tout derrière, on leur dit pas que quand ils jouent à telle partie, l'air de rien, ils font l'équivalent de 5 ou 6 exos de maths. C'est surtout ça qu'il faut pas leur dire. Et si, avec tous ces arguments, on n'a jamais réussi à convaincre l'éducation que, en fait, jouer, c'est apprendre, mais apprendre avec plaisir, et qu'en plus, les profs qui sont joueurs, ils sont un peu contre ça, là, ça commence à être difficile. Et enfin, pour finir, je pense qu'il y aurait... Enfin, c'est totalement utopique, c'est du rêve et c'est un film de science-fiction, je l'accorde. Il n'y aurait qu'une manière, je dirais, pour moi, de convaincre l'enseignement, qu'il soit français, en Belgique ou n'importe où, c'est de prendre par exemple deux classes en parallèle, deux classes de 25 élèves quelconques. Une classe, depuis le CP, enfin depuis l'âge de 5 ans et jusqu'à leur bac, voire même au-dessus, d'office, toutes les semaines, ils ont 2 heures de jeu. Et ils démarrent avec des tout petits jeux de cubes qu'on empile et ils finissent avec des jeux comme Diplomatie où ils apprennent les négociations et tout. Et l'autre classe, zéro jeu. Et à la fin, prenez les 25. Vous voyez lesquels quels résultats ils ont dans le bac, les 25 qui ont eu du jeu toute leur vie, et quels résultats ils ont les autres. Là, oui, vous avez une évaluation, mais qu'à la fin. Et si avec ça, on arrive à prouver qu'en faisant jouer des enfants pendant 15 ans de leur scolarité, par exemple, ou 14 ans, on en fait, entre guillemets, des petits génies qui décrochent leur diplôme sans même forcer et en s'amusant, voilà. Moi, j'avoue que quand je suis allé à des tests psychotechniques, quand on vous fait rentrer dans l'administration et que vous avez toutes ces formes géométriques et ces cubes, mais mon Dieu, mais c'était un jeu, c'était un vrai bonheur. Alors qu'il y en a, ils voient ça comme une contrainte et tout. Donc, c'est sûr que des gens comme nous, c'est facile de les convaincre de ça. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à mettre en place une expérience comme ça, quelque part dans le monde, qui durerait sur 10 ou 12 ans, et d'arriver à prouver au bout qu'on a fait d'un enfant, rien qu'en le faisant jouer et sans lui dire qui faisait des devoirs, entre guillemets, qui fait que s'amuser, parce que lui, il va y aller de lui-même. Et la dernière chose, c'est que les enfants, quels qu'ils soient, la plupart du temps, ils détestent perdre. Un enfant n'aime pas perdre. Donc il va mettre tous les moyens en œuvre, il va se battre, il va faire tout ce qu'il faut pour arriver à gagner. Donc il va apprendre sans le vouloir, parce qu'instinctivement, il ne veut pas perdre. Alors quand vous donnez un exo de maths, s'il n'a pas réussi à le faire, il aura perdu, mais il s'en fiche, parce que l'exo de maths, c'est une contrainte.
Je voulais revenir par rapport au sujet initial de la chose. Le constat global qui est tiré et que les gens ont l'impression de vivre, c'est on se démène et le jeu n'est pas encore connu et pas assez. Il faut bien vous dire que si vous prenez d'autres médias, que vous prenez le cinéma, la bande dessinée, la musique, et que vous regardez dans une grande surface, vous ne trouverez pas le groupe que vous préférez. Si vous regardez les films, vous ne trouverez pas le film d'auteur que vous préférez. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas en regardant ça, ce n'est pas le bon indicateur que le milieu est en mouvement. Parce qu'en grande surface, vous ne trouverez jamais que ce qui est consommé par la très très grande population. Mais ça n'empêche qu'il y a énormément, de plus en plus d'initiatives dans les boutiques de jeux qui sortent et qui montrent que le jeu est en mouvement. On n'arrivera jamais à faire aimer à toute la population les jeux de société. Ça, c'est impossible. Et j'ai l'impression que c'est presque le constat qui est ici. Tout le monde se dit, il faut que demain, tout le monde aime bien jouer. Non, ça n'arrivera jamais parce que pour des raisons X et Y, tout le monde n'aime pas jouer. Par contre, je pense, et des choses comme ici en sont la preuve, et je peux vous le dire, nous, en tant que société, quand je vois tous mes confrères, etc., qui sont éditeurs de jeux, tous les chiffres sont en très très nette progression. On trouve en grande surface des jeux classiques de qualité, qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans, qui commencent à arriver. Mais jamais, au grand jamais, on peut faire des festivals tous les week-ends, on n'arrivera jamais à faire apprécier à tout le monde le jeu. Par contre, maintenant, on a des atouts qui permettent vraiment de convaincre le plus de monde possible, ou plus de monde que hier, et ça sera encore le cas plus tard, enfin après-demain, etc. Mais enfin, je veux dire, il faut vraiment bien avoir cette distinction entre il y a plus de gens qui jouent et demain, tout le monde ne jouera jamais.
Je crois que le but, c'est effectivement, c'est pas d'essayer de faire une razzia et de dire tout le monde doit jouer, mais c'est effectivement de faire reconnaître, de montrer que le jeu est une démarche culturelle et intellectuelle autant qu'un film, qu'une BD, qu'un livre, même si c'est un débat qui reste ouvert. Mais voilà.
On parle ici du jeu de société. Je pense que le jeu, sous différentes formes, enfin, je pense en tout cas que tout le monde, tout être humain a cette dimension ludique, mais il va la développer différemment et il n'aimera pas nécessairement le jeu de société à règles telles qu'on le propose actuellement, effectivement. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde aime jouer, tout le monde. Mais c'est une éducation.
Oui, tout à fait. Et donc justement, pour revenir à Shadi, tu es un auteur tout neuf, on va dire, puisque on parlait de diversité. Donc le Salon international du jeu de société de Essen, donc qui se passe en Allemagne, puisque Essen est en Allemagne, a vu 700 jeux de société sortir ou présenter. Et parmi ces 700 jeux, il y avait le jeu de Shadi. Et moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'un auteur tel que toi se dit, je vais faire un jeu, Onirim, donc le jeu s'appelle Onirim. Quelle est la démarche que toi tu fais pour te dire, je vais faire un jeu et je vais le présenter à l'éditeur et advienne que pourra, ou bien quelle est la démarche que tu as derrière, c'est de créer un jeu et de voir ce qui va se passer. Comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à cette diversité-là?
Je pense que j'ai pas, à moins de vouloir fonder une entreprise pour faire plein d'argent, j'ai pas l'impression qu'on s'inscrive immédiatement dans Je veux dire qu'on se dise, oui, il y a 700 jeux, comment est-ce que je vais faire pour trouver ma place là-dedans?
C'est une question qu'on pourrait se poser, mais c'est peut-être pas la question que tu t'es posée.
Non, j'imagine si on se dit, ah voilà, j'ai un grand capital à investir, j'ai envie de faire du fric, faisons une compagnie de jeux de société. Alors là, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Mais moi, comme c'était pas du tout ça, je me suis dit, voilà, j'ai envie de créer un petit jeu pour moi dans mon coin. Et puis après coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait valoir la peine de faire jouer quelqu'un d'autre que moi? Et là, effectivement, peut-être qu'en observant un peu le marché actuel, je me suis dit qu'il y aurait peut-être une chance qu'il soit publié et qu'il ait sa place, mais c'est plus dans l'autre sens.
Et donc ça veut dire que par rapport à cette diversité qui est quand même établie, on ne peut que le constater, et qui continue à grandir, on a quand même encore des auteurs tels que toi qui se disent, je vais quand même créer quelque chose, et j'ai cette volonté de créer quelque chose de ludique. Il n'y a pas d'essoufflement, quoi.
J'imagine que tant qu'une production culturelle, parce qu'après ça, une production culturelle, bon, enfin, j'imagine qu'on est tous convaincus pour le moment, enfin ici, là, c'est pas la peine de prêcher, j'ai l'impression que de toute façon, on est tous convaincus que c'est un produit culturel. Tant qu'il y a une production et une effervescence, ça ne peut a priori qu'entraîner plus de création. Je ne suis pas certain. On entend souvent des trucs sur l'essoufflement du jeu. Genre, ah, maintenant, il y a trop. La surproduction va tuer le jeu, il y a trop de sorties, etc. Moi, je n'ai pas forcément l'impression, parce que en comparant avec un domaine que je connais un peu, l'opéra, au moment où il y avait énormément de trucs qui se faisaient. La grosse apogée, c'est 18e, 19e siècle surtout. Et là, il les sortait vraiment à la chaîne, quoi. C'est comme le cinéma à la grande époque. Là, maintenant, je crois que les coûts de production du cinéma ont fait qu'on produit moins. Maintenant, qu'il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, où là, on pouvait faire des séries B italiennes super cheap par centaines. Et donc là, je crois qu'au niveau du jeu, on n'en est pas encore là. Donc, il y a une énorme production. J'ai pas l'impression que ce soit. Je veux dire, ça entraîne encore plus de production. J'ai pas l'impression que c'est un truc qui peut s'essouffler par lui-même. J'ai l'impression qu'il y a des circonstances extérieures pour l'opéra. C'est pas qu'il y a eu trop d'opéra, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui s'appelait le cinéma qui est apparu et que ben voilà, les gens avaient leur dose de spectacle et d'émotion, peut-être plus facilement, aussi peut-être de façon moins chère que l'opéra qui était toujours cher et qui n'est pas devenu soudain moins. Et là, soudain, il y avait un concurrent qui était moins cher. Donc, je suis pas sûr que. Voilà, il faudrait voir les chiffres en détail, si plus de jeux font que...
Alors, justement, Marcus, toi qui es en ligne, en dernière ligne avant le client, parce que tu vends le produit fini, quel est ton sentiment par rapport à ce genre de préoccupation-là? Il y a de plus en plus de jeux qui sortent, est-ce que ça a un impact? Est-ce que tu vois des choses qui s'essoufflent de ton côté?
Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux qui sortent que c'est très difficile, d'abord pour nous, où on est censé quand même être boutique spécialisée, donc l'endroit... où, contrairement à une grande surface, on va prendre son jeu sur l'étagère. Le client, quand il rentre chez nous, il voudrait bien qu'on puisse lui expliquer tous les jeux qui sont là, de manière à trouver celui qui va vraiment le mieux lui correspondre. Or, quand on voit ce qui sort, eh bien, on a beau être fanatique de jeux, on a beau essayer un maximum, c'est impossible de tout tester. Le calcul est vite fait. 700 jeux, c'est une grosse année, mais souvent, une année sur SN, c'est un gros 400 jeux. Il y a 365 jours par an. Donc, tester un jeu par jour, vous imaginez, il faut déjà un boulot presque temps plein ou un mi-temps pour le faire. Donc, malheureusement, même en tant que spécialiste, ou spécialisé, pardon, on ne peut tester, donc vraiment guider les gens que sur à peu près 10% de la production. Et le restant, on est bien obligé de s'inspirer de ce qu'on entend des clients, de ce qu'on dit sur Internet. C'est totalement impossible de faire autrement. Ça, c'est pour la quantité. Et donc, malheureusement, on a la frustration de ne pas être aussi d'aussi bons conseils, entre guillemets, qu'on le voudrait l'être. Parce que, simplement, ben voilà, il y en a trop. Ça, c'est pour la quantité. Et donc, forcément, même si tous les jeux ne plaisent pas à tout le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien beaucoup de types de jeux. Et les porte-monnaies ne sont pas extensibles non plus. Et si vous avez 50 euros ou 100 euros par mois que vous voulez investir dans votre loisir qui est le jeu, eh bien, vous ne pourrez pas vous acheter tous les jeux qui sortent et qui vous donnent envie. Ça ne va pas être possible. Il y en a certains où vous allez vous dire, bon, ben, celui-là, tant pis. Bon. Ou alors, trouver d'autres solutions, l'occasion, etc.
Alors, juste une chose, tu parlais de quantité. Qu'en est-il de la qualité en tant que revendeur, si tu veux, quel est ton constat par rapport à la qualité?
De la qualité des jeux?
Oui.
je vois pas souvent ce qu'on pourrait appeler des daubes. Des daubes, donc des très mauvais jeux. Dans le secteur spécialisé, je vois rarement des jeux que j'estime très mauvais. Je vous rassure, ça m'est arrivé. Bon, mais on me demande par contre justement souvent, c'est quoi votre coup de cœur? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon jeu ou pas? J'ai souvent tendance à faire la réponse du Normand, que c'est pas vraiment la bonne question ou la bonne réponse, parce que c'est pas à moi qui doit plaire le jeu, c'est au client. Je vois plein de jeux que j'aime pas et qui se vendent bien, et inversement. Donc moi je préfère demander aux gens qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils cherchent. Et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver un jeu où je me dis ça va vous correspondre, alors que moi je vais peut-être trouver ce jeu parfaitement pelant. Mais voilà, c'est pas à moi qui doit plaire. Et donc forcément, dans la totalité des jeux qui sortent, eh bien je pense que chaque jeu va pouvoir trouver son public. Voilà, je connais peu de jeux qui plaisent à tout le monde, même un Colon de Catane, je pense qu'il plaît à 90 ou 95% des gens. J'ai vu des gens qui détestaient les Colons de Catane, et pourtant, voilà.
Est-ce que ça veut dire qu'au même titre que la diversité des jeux qui montent, est-ce que la diversité de la clientèle évolue de la même manière?
Je pense, oui. Ouais. Moi, j'ai vraiment, enfin, de mon côté, j'ai vraiment des hardcore gamers qui viennent chercher que les trucs qu'à la limite, on va peser pour voir si le jeu fait bien plus de 3 kilos. Et s'il y a bien au moins 50 pages de règles en anglais bien serré. Et dès qu'il y a 4 pages de règles, on se dit ça va encore être un truc pour les schtroumpfs. Et puis inversement, des gens qui viennent plus chercher des trucs familiaux où on va jouer une heure et demie. Et il y a tout le panel de tout ce qui peut se passer au milieu. Et donc oui, je pense qu'il y a vraiment plein de publics différents. Et tant mieux.
Ok, merci. Michel, tu avais...
Juste une dernière chose avant de passer le micro, parce que c'est une réponse... J'espère que je vais choquer personne, parce que c'est pas un avis personnel,
roulement
c'est
une
constatation que je pense avoir fait, qui répond un peu à ce que le monsieur demandait par rapport au look des boîtes. Est-ce que le côté fantasy ne fait pas ne repousse pas des gens? Et à vous allez peut-être confirmer ou infirmer par rapport à vos collègues qui vous disaient que vous avez perdu une heure de temps. Moi j'ai le très très net sentiment que la partie de la population, tu disais aussi que tout le monde aime le jeu. Moi, je vois une partie de la population qui est la plus réfractaire au jeu, c'est la madame, adulte et maman. Voilà. Et peut-être que que la majorité de vos collègues étaient des dames, peut-être. J'espère que non, et que je me trompe. Mais pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les mamans qui viennent avec leurs gamins de tout âge, de 5 ans à 15 ans ou 20 ans, qui viennent acheter des jeux qui sont sur le thème fantasy, au moins une fois sur deux, je vous raconte pas des cracks, au moins une fois sur deux, leur réflexion c'est « Mon Dieu que c'est laid! Es-tu sûr que tu veux ça? Mais c'est horrible !» Voilà. Et parallèlement, si vous demandez à des gens de vouloir faire un jeu, eh bien souvent, les dames sont pas trop tentées par le jeu. Il y a plein d'hommes qui jouent, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Il suffit de voir dans les magasins le nombre de gens qui rentrent sur une journée. Dans les clubs de jeux, la population, vous allez constater qu'il y a, je pense, à peu près 80% d'hommes pour 20% de femmes. Je pense qu'on est là-dessus. Et cette population des femmes, elle n'est pas dans la population des adolescentes ou des jeunes adultes, c'est plus sur la catégorie de la trentaine, c'est-à-dire la personne qui commence à rentrer dans la vie sérieuse, adulte et professionnelle. Et le jeu a plus vite tendance à passer pour un loisir un peu puéril, pire qu'intellectuel, parce qu'intellectuel, à la limite, sa carte, son laissez-passer, sa patte blanche, un loisir de perte de temps, un loisir puéril, un truc qui ne sert pas à grand-chose, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous me dites « t'as perdu une heure de temps », est-ce que la plupart de vos collègues, c'était des dames? Voilà. hélas. Donc il va falloir éduquer ces dames.
Ok, Michel.
J'aimerais juste ajouter un petit truc, parce que tu as réévoqué le truc de l'heroic fantasy. À la fois, donc Gaëtan, tu avais eu un argument contre pour dire non, parce que les aventuriers du rail qui n'a pas un thème fantasy ne marchent pas. Moi j'avais envie, oui, enfin ne marche pas auprès du grand public, qu'on ne trouvait pas en grande surface, je veux dire. C'est ça. Et j'avais pas envie d'enfoncer le clou, donc j'ai pas attrapé le micro à ce moment-là, mais d'une certaine façon, l'heroic fantasy est... cartonne au cinéma et la science-fiction aussi, je veux dire la quantité Mais Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux, enfin je veux dire, c'est des films qui ont vraiment explosé le box-office, pas seulement auprès des geeks, comme peut-être ils auraient pu le faire il y a une vingtaine d'années. Donc, je sais pas, alors je veux pas faire forcément des comparaisons, mais on a pu évoquer le cinéma ou la musique, qui ont aussi été des médias qui n'ont pas eu leur reconnaissance culturelle pendant tout un temps, et c'est aussi une tarte à la crème qu'on ressort tout le temps dans le milieu du jeu, c'est de dire oui, mais la bande dessinée, le cinéma aussi, c'était considéré comme des divertissements vulgaires, et le jeu, maintenant, on est sur la même voie, etc. Enfin, on connaît tous, on a entendu ça mille fois, mais peut-être aussi par rapport au thème, peut-être qu'un Seigneur des Anneaux n'aurait pas pu fonctionner il y a 40 ans, ou même il y a 30 ans, au cinéma pour un truc grand public. Et ils ne l'ont pas fait, peut-être pas seulement parce que les effets spéciaux n'étaient pas au point, peut-être parce que ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant, ça peut, et peut-être aussi au niveau de la thématique dans les jeux, il y a peut-être des parallèles à établir. Voilà, donc c'est pour dire aussi que je n'étais pas convaincu non plus à 100% de cet argument-là. Ça a peut-être à voir avec l'attitude par rapport au jeu en général, ce que toi tu dis, Marcus, qui fait que voilà, la fantasy, c'est une circonstance aggravante, mais à la limite, le côté BD des aventuriers du rail, c'est une circonstance aggravante. Enfin, donc. Voilà, c'était pour détacher un peu ça du thème.
Ok, merci beaucoup. On va clôturer le débat. Michel, tu avais encore une intervention à faire, puis après je vais vous demander, finalement, est-ce que c'est honteux de jouer, peut-être d'argumenter, dire quel est votre argument pour dire que, oui ou non, est-ce que c'est honteux ?
Alors, il faut reprendre les éléments. On a parlé d'éventuelle surabondance de jeux sur le marché. J'ai bien aimé l'intervention de Shadi qui nous dit que finalement, cette diversité est un bienfait au niveau de la créativité, certainement. Et puis, alors, il y a la dimension de genre pour Marcus et cette traduction de la vente du jeu par rapport au public qui vient en magasin et le conseil qu'on peut lui donner lorsqu'il y a trop de jeux et qu'on est englué, on ne parvient pas à donner le conseil parce qu'on a... On connaît 10% de la production. Donc par rapport à ces deux éléments-là, je voulais intervenir. Trop de jeux et une trop grosse diversité, non, effectivement. Je trouve que c'est plutôt positif d'avoir une créativité, une grande créativité. Mais les jeux qui vont rester, ce sont les jeux qui vont être réédités, qui vont revenir, qui vont parvenir à trouver un public plus large. Ces jeux-là vont s'installer et devenir une sorte de jeu traditionnel comme peut-être un Jungle Speed ou précédemment un Monopoly. Ceux qui vont parvenir à cela ne représentent qu'une petite proportion, évidemment. Ce sont ces jeux-là qui vont se pérenniser. Les petits ne vont pas nécessairement pouvoir se faire une bonne place et donc l'accès aux médias est important par rapport à ça néanmoins. Ce qui est difficile donc, c'est de pouvoir se faire une place à partir du moment où il y a des majors de production. Ce qui est riche, c'est d'avoir des petits éditeurs qui parviennent à travailler et être très dynamiques par rapport à des grosses maisons d'édition. On est dans une phase de foisonnement. Il ne faudrait pas qu'il y ait les gros poissons qui mangent les plus petits. On sent une évolution tout doucement dans le milieu du jeu quand même. Une intégration de la filière de production à tous les niveaux. Et donc, si on retrouve des majors qui récupèrent le secteur du jeu de société, on va reperdre, à mon avis, ce dynamisme. Donc, c'est plutôt là que l'appauvrissement pourrait se faire, malheureusement. Donc, ça, c'est pour ce champ-là. Par rapport au développement d'une culture du jeu et de l'étude du jeu lorsqu'il y a une trop grande... une très grande diversité, mais là je pense qu'il faut des passionnés de jeux qui deviennent des professionnels de l'analyse des jeux, ce qu'on appelle en fait des journalistes ludiques, on peut dire, des testeurs qui tiennent chronique dans toutes les revues, les magazines et autres. C'est un métier en Allemagne, bien sûr. Chez nous, pas encore. Et donc il y a les geeks, bien sûr, qui jouent partiellement ce rôle, mais ils devraient être relayés par d'autres personnes, évidemment, qui ont une vision plus large du marché et de ce que les gens peuvent apprécier. Donc les conseils et autres passent par cette culture-là. Maintenant, les gens peuvent tout de même tester des jeux dans des occasions comme celle-ci, ou pourquoi pas emprunter des jeux, n'est-ce pas, en ludothèque, ce qui ne coûte pas grand-chose. Et lorsque on a un jeu qu'on réemprunte deux, trois fois, là, il est grand temps d'aller courir l'acheter, effectivement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le jeu de société, les passionnés sont aussi des collectionneurs et ils veulent tout. Et donc là, aujourd'hui, c'est plus possible, effectivement, avec le budget du jeu de société. Mais donc, les ludothèques, lorsqu'elles seront suffisamment fournies en nouveautés, et là, c'est une question de moyens aussi, je pense, pourront être attractives correctement pour le public par rapport à cela. Et le dernier aspect, c'est la dimension de genre. Donc, les femmes et le jeu, là, c'est aussi une question fondamentale, intéressante, parce que c'est plus de 50% de l'humanité, n'est-ce pas ? Le jeu n'est pas dans les besoins primaires de l'être humain, ils viennent juste au-dessus, donc de la pyramide des besoins. Donc, l'enfant ne joue pas si tous ses besoins primaires ne sont pas satisfaits. Et donc, manger, boire, la sécurité et autres. Et donc, là, dans les stéréotypes de genre, malheureusement encore jusqu'ici, la femme tient ce rôle d'abord de garante des choses matérielles premières et que tout soit garanti. Et quand elle a fait tout ça, elle, personnellement, rarement, elle a le temps du loisir ou de jouer. Donc, elle ne prend pas le temps de faire sa propre éducation par rapport au jeu. Et donc, elle voit ça avec un certain recul, c'est-à-dire que le jeu doit être utile à l'éducation. Et c'est une erreur, évidemment, mais sociétalement parlant, il faut prendre tous en charge les besoins fondamentaux. Et à ce moment-là, les femmes pourront aussi partager ce plaisir avec nous, les hommes, qui avons plus de temps. Donc voilà, il y a un rééquilibrage à faire de ce point de vue-là, me semble-t-il.
Alors Michel, pour clôturer, on va passer chez chacun. Est-ce que c'est honteux de jouer ?
Pas du tout. Je terminerai le petit tour en vous lisant quelque chose pour vous dire que c'est pas honteux.
D'accord. Donc Thomas ?
Bien sûr que non, sinon j'en ferais pas mon métier, évidemment.
Voilà, absolument. Gaëtan Bézieux ?
Oui, pour dire. Non, bah non, c'est pareil. Mais après, peut-être qu'il y a certaines notion de jeu d'argent qui ont aussi amené cette image peut-être néfaste et parce que c'est peut-être pas assez encadré. Là, ça déborde aussi sur un autre thème. Mais...
Christophe Bollinger ?
Bon, y a deux manières de voir. Là, vu tous les gens qui sont ici, on serait pas tous là si c'était honteux, je pense. Hein ? Deux, je pense que c'est honteux si vous jouez au strip poker et que vous perdez.
C'est un fait. Shadi Torbé ?
Non.
Shadi Torbé joue souvent au poker.
Bon, effectivement, c'est un peu difficile pour n'importe qui dans cette salle de dire « Oui, c'est honteux de jouer, sinon il serait pas là ou alors avec une cagoule sur la tête. » Non, oui, bien sûr, non seulement c'est pas honteux de jouer, mais effectivement, je pense, comme l'a très bien dit Christophe, de manière très exhaustive, c'est même un besoin. Je pense même qu'il faudrait faire comprendre aux gens que ça devrait être un besoin fondamental. On voit très très bien que les gosses, et d'ailleurs c'est peut-être un bémol que je vais dire à ce que je disais tout à l'heure, les dames s'intéressent au jeu mais uniquement pour leur môme en bas âge parce que ça fait partie de son évolution, etc. Ce n'est que pour le jeu ado et adulte où là ce que je disais c'est autre chose. Mais ça participe vraiment au développement intellectuel du môme et donc je pense que c'est vraiment un besoin fondamental et pour ceux qui n'y auraient pas réfléchi, c'est vraiment important de le rappeler. Donc aux autres, pas à vous, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que je voulais raconter ?
Est-ce que c'est honteux de jouer, Marcus ?
Oui, non, je pense pas. Hein.
Non, Christophe a bien insisté là-dessus, c'est essentiel. Il ne suffit pas de le dire entre nous, déjà convaincus finalement, et on prêche toujours les convaincus. Il faut qu'au niveau de la société, ce soit reconnu. Ça commence certainement au niveau des recherches, il faut des recherches pour montrer, pour démontrer. La quantification est difficile, on l'a vu, donc on n'est pas dans la culture de l'évaluation, mais enfin on est dans une culture d'évaluation et le jeu a du mal à être évalué et quantifié positivement au niveau de ses résultats. Mais il faut passer par là, et donc il faut des recherches scientifiques et universitaires sur ces sujets. En Europe, on n'est pas à la pointe de ce point de vue-là. Heureusement, d'autres, quand même, ont pris les rênes. Il faut prendre le relais par rapport à ça. Alors, je vais vous lire les conclusions d'une recherche rare. Et c'est extraordinaire, donc, et c'est rassurant de pouvoir lire les conclusions. C'est dans un livre de Francine Ferland, qui est québécoise, elle est ergothérapeute et elle est professeure à l'Université de Montréal. Et dans son livre « Et si on jouait ?», le jeu durant l'enfance et pour toute la vie. Elle nous cite les conclusions d'une étude universitaire qui date de 2005. Et elle, donc voilà les conclusions. Donc on tente de définir à partir de l'attitude ludique à l'âge adulte et d'autre part de déterminer l'utilité de cette activité. Les résultats de l'étude apprennent que les éléments qui caractérisent l'attitude de jeu chez l'adulte sont très similaires à ceux observés chez l'enfant. En effet, l'adulte qui présente une attitude de jeu manifeste du plaisir, de la spontanéité, de la curiosité, un bon sens de l'humour et de la créativité. Le plaisir ressort toutefois comme point central et est alimenté par les autres éléments. Les adultes qui ont une telle attitude ne la manifesteraient pas que dans les loisirs, mais tout autant dans leur travail et dans leur autre activité quotidienne. Les résultats de cette étude ont aussi identifié l'impact d'une telle attitude sur le quotidien. Il semble que les adultes qui présentent une attitude caractérisée par le plaisir, le sens de l'humour, qui sont spontanés, curieux, créatifs et qui prennent des initiatives, affichent une joie de vivre, un esprit ouvert et ne se prennent pas trop au sérieux. De plus, ces personnes ont de la facilité à composer avec les difficultés. Devant une situation problématique, ils savent dégager des aspects positifs et trouver des solutions originales. Une telle attitude les aide aussi à s'adapter au changement. Avec une telle attitude comme toile de fond pour ces activités, il est évident que le quotidien est plus agréable et moins stressant pour la personne, mais aussi pour son entourage. Voilà les conclusions de cette étude universitaire québécoise. Alors ça donne envie évidemment de se lancer dans des recherches similaires chez nous. Et donc il faut trouver des budgets, convaincre les autorités publiques évidemment, pour confirmer ce genre d'études. Plus il y aura d'études de ce point de vue-là, moins ce sera honteux de jouer.
Merci Michel.
Juste une chose pour vous, madame enseignante. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vous annoncez pas ni à votre supérieur, à votre hiérarchie, ni à vos collègues enseignants, ni à personne. Et vous dites à vos élèves, chaque semaine, on va avoir une petite séance de jeu de 2 heures ou quoi. Et en plus, vous leur dites, mais faut pas le dire parce que c'est interdit. Ils vont trouver ça encore plus fabuleux. Et vous faites ça sur quelques années et vous regardez les résultats derrière. Je pense qu'il faut faire ça de manière discrète. Et comme disait Thomas, on fait monter le jeu effectivement par rapport aux médias qui balancent des trucs à la télé. On fait monter le jeu par en bas. Faut qu'on fasse monter le jeu par en bas, discrétos, sans rien dire, sans rien montrer, et juste afficher les résultats à la fin. C'est la conclusion.
Parfait. Merci beaucoup. Juste une conclusion, comme Michel l'a dit dans sa conclusion, prenez votre pied, allez jouer. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Après 1h15 de débat, vous avez toujours chaud.
Vous en trouverez d'autres, vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.